Il va nous arriver un truc. Un truc énorme.
On est en pleine délinquance juvénile.
La télévision cet après-midi pour maman.
Brandy, Camélia,
Dorian,
Elia,
Fatoumata,
Enzo,
Mariama,
Noah,
Nesrine,
Robespierre,
Tonjira,
à la jeunesse de l'Ipro.
En direct du festival
direct
d'Avignon.
Les micros. Les micros.
Les micros.
Ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Ils sont à qui?
Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous recevoir au Cloître Saint-Louis. Ce soir, l'émission s'appelle « Il n'y a pas d'âge pour danser ». Je voulais vous demander, est-ce que vous vous êtes déjà écrit une lettre à vous-même? Moi, oui. Bonjour Noah, je suis ta version de 17 ans. Toi, tu as 80 ans, tu as vieilli et je l'espère, tu t'es assagi. Je t'écris cette lettre sur un son de Charles Aznavour. J'espère que tu n'as pas oublié que j'adore ce chanteur. Malheureusement, déjà décédé à l'heure où je t'écris. Si je fais cela, c'est pour m'assurer que mes espérances sont restées les mêmes. D'abord, j'espère que tu habites la Corse. Dans le cas contraire, je te cache pas ma déception. Cependant, j'ai fait déjà tellement de choix hasardeux qui m'ont paru égoïstes et stupides après coup, je peux décemment pas définir ce que t'as réussi ou ce que t'as raté dans ta vie. Et puis, t'es moi. J'ai toujours décidé de faire ce qui me semblait le plus juste. Tu as dû poursuivre dans cette voie. Ta famille a dû continuer à t'en faire baver. Ne leur en veux pas. Accroche-toi. Tu es le sac dans lequel ils frappent quand ils ne vont pas bien. Endure fièrement et sans broncher comme tu l'as toujours fait. J'espère au moins que durant ta vingtaine, tu as passé du temps avec maman. Ce n'est pas une maman modèle comme on peut voir dans les pubs ou chez les bourges. Elle a ses défauts comme tout le monde, mais c'est pour moi et ça a été pour toi la personne la plus importante de notre vie. Alors certes, on en a bavé avec elle aussi, mais c'est ce qui a forgé cette force et cette défense dont je suis si fier. J'en suis si fier que j'en viens même à avoir de la peine pour les gens qui n'ont jamais souffert. Enfin bref, cette lettre s'allonge. Si je continue, tu vas mourir avant de l'avoir finie. Je vais écourter un peu. Pour ta vie d'adulte, j'espère que tu as une fille et deux garçons, tout comme maman, pour comprendre par quoi elle est passée. Après tout, mon frère et moi, on lui a ruiné son mariage. Tiens, en parlant de mariage, j'espère que le tien a duré longtemps. Et que tu t'es trouvé une femme aimante pour t'accompagner dans la joie comme dans la mort. Pour finir, je me souhaite de réaliser tout ce qu'il y a écrit dans cette lettre. Et je te souhaite à toi de sourire en la lisant. Enfin, je nous souhaite à moi une vie heureuse pleine de récits. Et à toi, une mort paisible, sans douleur ni regret. Noah Djmenza.
Merci Noah pour ce texte. J'espère que tu l'as déjà posté vu tous les retards qu'il y a à la poste. Mais nous, de notre côté, on vous accueille avec toute l'équipe de À la jeunesse, les micros. On est au Cloître Saint-Louis, à côté d'une belle fontaine. Il fait beau, on a un beau public, je pense que tout se passera bien. Ce soir, on va recevoir, pour parler de la transmission, on va avoir Gwanaëlle Morin et Caroline Guéla Nguyen et au téléphone Augustin Trapenard. Et comme d'habitude, nous aurons notre interlude musical et lecture. Et qu'est-ce que c'est la transmission? On est parti voir dans les rues de Avignon.
Et si je te dis transmission, ça te fait penser à quoi, une phrase?
Transmission du savoir, père en fils, apprendre des choses.
C'est essayer de faire passer le sens du beau.
Transmission, alors effectivement, j'étais militaire de carrière et j'ai travaillé dans les transmissions. Donc transmission, mais la transmission se passe, pas forcément de bouche à oreille, mais ça se passe par le cœur. Ben, la transmission, c'est par rapport à votre vécu. Si vous ne savez pas, il n'y a pas de transmission.
Et ce n'est pas vraiment une phrase, mais je pense aussi à tenir par la main. Pour moi, transmettre, ça veut dire amener les gens, même s'ils ont peur, leur dire c'est pas grave d'avoir peur, viens, on va aller voir ça, et ça peut te plaire, et confiance, quoi.
La définition pour vous de transmission ?
C'est une forme de don, je pense.
Transmission, ça me fait penser à l'œuvre qu'on a vue hier, qui était un slam de texte de Kerry James. C'était assez poignant parce que ça parlait des banlieues, de la vie difficile dans les banlieues donc qu'a vécu Kerry James. Et c'était vraiment la transmission de son vécu à nous qui ne connaissons pas du tout ce milieu-là.
Pour moi, transmettre, c'est par exemple mes parents m'ont transmis des valeurs ou alors des caractéristiques que maintenant, ben, moi, j'ai attrapé, on va dire, ou alors que j'ai pris chez mes deux parents et que j'ai remanié pour ensuite créer ma propre personnalité.
Transmission, la mémoire, le souvenir, faire passer aux autres générations, pas qu'ils oublient tout ce qu'on a vécu et tout ce qu'ont vécu nos ancêtres.
La transmission, c'est comment réussir à laisser l'autre libre tout en lui donnant envie de découvrir les choses. Voilà.
La radio tout d'abord, non ?
Oui, la radio. Voilà ce que je dirais.
Eh bien, la transmission, c'est aussi écouter les autres, savoir écouter ce que ces jeunes enfants nous disent de leur parcours individuel aussi. Et c'est ça aussi la transmission pour moi.
Bonsoir à tous. Comment vous allez ?
Bien, et toi ?
Pas trop fatigué ?
Si.
Bon, je vais vous réchauffer, ça va aller. Et aujourd'hui, pour parler de qu'est-ce que ça vous évoque, la transmission ?
Alors, la transmission. Moi, la transmission, dans mon cas, m'évoque quelque chose de non matériel. Je pense que c'est quelque chose qui nous est transmis de par les personnes avec qui on côtoie au quotidien. Comme on le dit, pour moi, dis-moi avec qui tu traînes et je te dirai qui tu es. Donc pour moi, c'est tout ce que nos parents nous ont transmis sans rien nous dire. C'est tout ce que nos amis, nos grands frères nous ont transmis. Donc pour moi, c'est vraiment ça, la transmission. Et c'est la chose, je pense, en quelque sorte, la plus chère. Parce que ces personnes-là finissent par, en quelque sorte, faire partie de nous. Donc pour moi, c'est ça, la transmission.
Pour moi, la transmission, c'est les valeurs, c'est l'éducation, c'est tout ça en même temps, en fait.
Moi, je trouve que c'est difficile comme question, la transmission. On a pu en parler plus tôt et j'ai pas vraiment su dire, moi, ce qu'on m'avait transmis, mais c'est aussi la culture et même à nos tours, on transmet du coup nos valeurs aux gens, comme Robespierre disait, et comme on disait tout à l'heure avec Elias, c'est aussi, bah, nous, notre culture, on la transmet aux autres aussi, avec les plats, avec les coiffures, avec les vêtements, enfin voilà, c'est plein de choses en même temps.
C'est un moment de partage, quoi.
Voilà, c'est ça.
Bah, la même chose, pareil, comme dit dans ma lettre, pour moi, les transmissions, c'est ce qu'on transmet à notre enfant, genre l'éducation, ça revient un peu sur tout ce qu'on a dit, c'est pas...
Et un peu entre nous, rapidement, qu'est-ce que, par exemple, vos parents, vos proches vous ont transmis et qui est le plus important pour vous aujourd'hui ?
C'est la loyauté.
La loyauté, ok, ouais. La loyauté.
Moi, je dirais l'ouverture d'esprit.
L'ouverture d'esprit, ok. Oui. Savoir accepter les autres comme ils
Exactement.
Sont, ok.
Exactement.
Moi, je dirais la fierté et la force.
La fierté corse, encore.
La fierté okay. corse, hein.
Et est-ce que dans le public, vous avez des anecdotes sur la transmission à nous partager ?
Quelque chose d'important, moins...
Qu'on vous a transmis, drôle, surtout. Ouais.
Alors, qui a une idée ? Madame, avec la chemise blanche.
Ce qui me frappe dans la transmission, c'est peut-être qu'aujourd'hui, on est dans un temps très différent, puisqu'on est dans un temps où ce sont les jeunes de votre génération qui transmettent à leurs aînés la connaissance et l'alerte sur l'impact de l'urgence climatique, sur l'impact du réchauffement climatique, qui va vous concerner, vous, de
et
façon
vous n'écoutez
très
pas toujours quand même, hein.
Comment ?
Vous n'écoutez pas toujours.
Ben c'est ça le problème, justement. Donc là, il y a une espèce d'inversion. En général, c'est les parents qui disent aux plus jeunes « Mais tu n'écoutes pas, moi j'ai l'expérience, écoute un peu ce que j'ai à te dire, etc. » Et vous les envoyez paître, vous avez bien raison. Vous nous envoyez paître. Et là, c'est un peu l'inverse. C'est vous qui nous apprenez des choses et nous qui n'écoutons pas assez. Donc je trouve qu'on est dans un moment un peu particulier de la transmission.
Après, je ne sais pas pour vous, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi, pour transmettre, il y a aussi cet aspect d'âge, d'ancienneté qui doit compter. Par exemple, nous, pour les plus jeunes, on a l'impression parfois que ce qu'on dit n'a pas beaucoup de valeur parce qu'on est jeune et donc on n'a pas grand-chose à transmettre.
Je ne suis pas d'accord avec toi parce que personnellement, j'apprends énormément des enfants, voire même des bébés, parce que leur énergie, en fait, c'est une façon de transmettre. L'énergie dans laquelle on se trouve, c'est une façon de transmettre. Et je ne suis pas d'accord avec toi.
Ok, je crois qu'on l'a compris.
Ouais.
Dans le public.
Merci pour cette intervention, Audrey Pulvar. C'est une vedette que nous avons eue. Alors, quelqu'un a une idée ? Une opinion ?
Je vous rejoins dans ce que vous venez de partager. Vous apprenez d'un bébé, de toute personne, quelle qu'elle soit, du début de la vie jusqu'à la fin. Je vous rejoins complètement. Il me semble que ce qui est important, c'est la qualité de présence.
Exactement.
Même au cœur du silence. La qualité de présence qui va créer un éveil, une curiosité, une envie.
Merci madame. Et merci. Maintenant, pour continuer cette discussion, nous allons accueillir Gwenaëlle Morin. Bonsoir Gwenaëlle, bienvenue. Comment ça va ?
Ça va.
Pas trop stressé ?
Si.
On va pas vous manger. Hein.
Comment ?
On ne va pas vous manger.
Bon, ça va.
Première question, qu'est-ce que vous évoque tout ce qui a été dit ou raconté, entendu ?
La seule chose dont je peux vous parler, c'est ce que moi j'appelle la transmission. C'est assez bête, en fait. Quand je fais des spectacles avec une équipe, à un moment donné, on a mis en place un certain nombre de choses et pour pouvoir faire le spectacle d'après, j'invite des gens à prendre le relais et donc on leur transmet les rôles qu'on a
en équipe.
Voilà.
Ok. Alors notre thème du jour, c'est la transmission et justement pour le festival, vous avez choisi de reprendre la pièce Le Songe de William Shakespeare.
Uh-huh.
Il nous a en quelque sorte transmis cette pièce et vous avez décidé de la reprendre et de la retransmettre. J'aimerais savoir qu'est-ce que votre mise en scène apporte de plus à la création originale ? Qu'est-ce que vous transmettez en plus de la création originale ?
Alors je peux vous dire ce que ça m'apporte à moi. C'est-à-dire que ça donne un sens à mon existence, mais à partir de là, est-ce que mon existence apporte quelque chose à l'humanité ? Ça, j'en sais rien.
Vous êtes déjà là.
Je pense que vous êtes un metteur en scène reconnu.
Oui,
je pense que vous avez dû apporter. Et donc, on va dire, qu'est-ce que... Je vais essayer de poser la question le plus simplement. Qu'est-ce que vous pensez que vous avez apporté au monde en étant un artiste, en étant un metteur en scène ?
En fait, ma contribution, c'est celle d'accepter d'être aveugle, en fait, d'avancer dans le monde sans tête, en fait, de courir le risque du désert, de la solitude, de courir le risque du chaos et d'y aller et de me jeter dans cette chose-là à corps perdu et d'en restituer sous une forme ou sous une autre. L'expérience à ceux qui veulent bien m'écouter, en fait. Donc ce que j'apporte au monde, c'est tout ce que j'essaye d'apporter au monde, en fait, c'est cette espèce de, je sens très bien savoir d'où ça vient, en fait, cette espèce de capacité que j'ai à affronter ce qui n'existe pas. Alors je suis évidemment pas le seul à le faire, j'ai pas la prétention d'être le seul à le faire, mais j'arrive, je sais pas par quel miracle, j'arrive à susciter autour de moi suffisamment d'empathie, suffisamment de confiance, suffisamment d'adhésion pour pouvoir amener du monde avec moi dans cette aventure.
J'ai l'impression que c'est un peu la peur du vide, la peur du rien, peut-être de naître et de disparaître sans laisser aucune trace.
Peut-être que c'est quelque chose comme ça.
J'ai vu que vous aimiez transmettre votre amour du théâtre à des personnes qui ne sont pas forcément de ce milieu-là. Ouais. Et je voulais savoir, est-ce que ça peut servir à casser les barrières, à sortir de sa zone de confort? Parce que moi, je suis quelqu'un de très introverti. Ouais. Donc le théâtre, est-ce que ça pourrait être pour moi, quoi?
Ouais, en fait, ce qui moi me passionne dans ces textes-là, qui existent dans les chefs-d'œuvre, en fait, c'est que ils sont immédiatement disponibles, en fait. C'est un peu comme la terre, quoi. Il suffit de se pencher pour en prendre une poignée. Donc, il semblerait que ce soit insignifiant. Il semblerait que ce soit, voilà, peut-être même vulgaire ou voilà, pas nécessairement précieux. Voilà, c'est une espèce d'espace, voilà. Et comment, à partir de ce qui est accessible à tous, comment en m'en saisissant, en essayant de m'y confronter, il y a quelque chose de... j'invente quelque chose de singulier qui m'est propre, et je trouve un sens à, encore une fois, à ma propre vie. Alors ça ne répond pas exactement à ce que vous dites, mais...
Par exemple, quand vous avez appris le théâtre à des personnes qui ne savaient pas, est-ce que vous avez vu ce moment-là où les barrières sont tombées physiquement et psychologiquement quand ils ont fait du théâtre ?
En fait, j'apprends rien à personne. J'essaie juste. C'est toujours cette sensation de parce que là, cette sensation de joie extrême que me donne le fait de me saisir d'un texte et que de trouver des formes qui de
changer un peu la forme.
Ouais, et cette chose là cette joie extrême, c'est ça que j'essaye de transmettre, en fait. C'est avec ça que j'arrive à rencontrer les autres. C'est ça que j'essaye de transmettre, parce que c'est ça, je pense, qui transforme le monde, en fait, une certaine capacité à se lancer aveuglément dans ce qui n'existe pas encore, vers l'inconnu, en fait. Alors cet inconnu, c'est pas une obscurité abstraite, c'est simplement quelqu'un d'autre, en fait. Voilà.
Okay, vous êtes quelqu'un de très humble, je pense que... Alors, nous aimerions tous que vous nous le transmettiez. Je laisse la parole à ma collègue Fatou.
Exactement. Bah, du coup, moi et pour la majorité de mes collègues, on n'est pas vraiment familier, en fait, à ce monde du théâtre. On vient de banlieue parisienne pour moi et banlieue d'Avignon. Du coup, comment vous, en tant qu'artiste, vous faites pour nous, justement, où on n'a pas de culture théâtrale, pour nous attirer justement vers vous et vers ce milieu-là?
Moi non plus, en fait, je connais le théâtre.
Non, mais sans, on ne va pas s'en sortir.
Mais sans élégance, hein, c'est que...
On y arrivera.
C'est que je trouve que la distance entre la possibilité d'en faire et en faire, elle est très très courte. Le fait de savoir lire, le fait d'avoir accès à une bibliothèque et le fait de dire aveuglément, c'est à ce moment-là que je parle d'aveuglement, en fait. C'est-à-dire, non pas en méprisant, mais en se départissant de tout ce qui pourrait nous empêcher de faire quelque chose, se dire, ok, je prends cette pièce de Shakespeare, il n'y a aucun problème sur le fait que ce soit important, parce que qu'on le veuille ou non, c'est fondateur d'une grande culture dominante, donc voilà, ça existe sans nous, et à un moment donné, on s'attaque à ça, on s'attaque littéralement, hein, on s'attaque à cette chose-là, et on essaye, dans la confrontation personnelle avec cette chose-là, de trouver un sens. Donc ça ne veut pas dire, en fait, il n'y a pas... C'est des œuvres qui nous apprennent, c'est des œuvres qui, par rayonnement, par réaction, nous enseignent elles-mêmes, en fait, à condition qu'on veuille aller sincèrement, avec force, à leur rencontre. Donc, ce qui est peut-être important dans la transmission, en fait, c'est qu'on apprend en faisant. On apprend par la pratique.
D'accord.
On apprend en se confrontant physiquement à la réalité, parce que finalement, une œuvre de Shakespeare, c'est une part de la réalité. Il n'y a pas d'un côté l'art et de l'autre côté la réalité, c'est une dimension même de la réalité. Donc c'est la manière que j'ai choisi, moi en tout cas, de me confronter au réel, en allant au contact de ces murs qu'on appelle, par exemple, le CID, de ces murs qu'on appelle, par exemple, l'avare, de ces murs qu'on appelle, par exemple, Victor Hugo. Et donc, là où j'ai pas la prétention d'enseigner quelque chose, c'est que j'ai rien à dire, en fait, sur Victor Hugo. La seule chose que je peux vous dire, c'est sur ma détermination, ma capacité à m'aveugler pour aller me confronter à cette étrangeté même qu'on appelle une œuvre d'art, en fait, qu'on appelle un texte de théâtre, parce que qu'on appelle un texte de théâtre. Donc,
oui, vous les rendez plus accessibles, en fait.
En fait, je ne les rends pas plus accessibles. Moi, j'y vais.
Ouais.
Et par entraînement, par mimétisme, par imitation, quelque chose. Putain, il y va, mais moi aussi. Alors,
vous le dites avec tellement de fougue que moi aussi, j'ai envie d'aller m'attaquer à
l'autre.
Et on s'y dit, allez.
On sent la passion dans ces mots. Et est-ce que le public a une question à poser?
Alors, du coup, moi, je suis dans le public. Je m'appelle Yasrine, juste ici. Bonjour. Moi, j'aurais une question à vous poser. C'est est-ce que vous pensez qu'il faut un certain âge pour pouvoir transmettre le théâtre à quelqu'un?
En fait, je pense qu'on peut transmettre à partir du moment où on aime. À partir du moment où on aime quelque chose, on peut le transmettre. Alors, ça peut être effectivement des choses rationnelles, ça peut être des choses construites intellectuellement, mais ça peut être aussi simplement une manière d'être au monde, en fait. Donc, à partir de là, il n'y a pas d'âge, sauf qu'il faut une certaine disponibilité pour pouvoir transmettre ce qu'on aime, une certaine disponibilité pour mesurer qu'on aime, et ensuite pour pouvoir transmettre cette énergie singulière que produit une relation amoureuse avec une dimension de la réalité. Et c'est pour ça peut-être que c'est souvent assorti d'un certain âge. C'est-à-dire qu'il y a, quand on est plus jeune, on a d'autres urgences. Il faut peut-être un peu de recul, comme dit Albert Camus, on aime à partir de la deuxième fois. Donc il faut avoir le temps de cette deuxième fois.
Mais on a l'impression que dans beaucoup d'œuvres, il y a cette fougue amoureuse. Et comme dans Roméo et Juliette, il y a cette fougue de la jeunesse qui est transmise. Donc peut-être qu'il faut de l'expérience, mais il faut aussi une forme d'observation de ces choses-là pour pouvoir appréhender. On repose la question dans le public. Est-ce que vous avez des questions pour M. Gwenaël?
Tenez, madame.
Merci. Oui, bonjour. Il me semble que ce que vous dites, Monsieur Gwenaël, comme on dit, c'est qu'on transmet par ce qu'on est. Parce que ce que vous nous racontez, c'est que vous vous confrontez aux œuvres et que c'est ça, votre façon de transmettre. Donc, moi, je pense que transmettre, on transmet non pas par des récits, non pas... on ne transmet jamais une expérience à quelqu'un. Je ne crois pas du tout à la transmission de l'expérience. Mais je crois qu'on transmet par ce qu'on est, simplement. Et que... L'essentiel de la transmission, sûrement, c'est quelque chose comme la capacité à aimer, de façon très large. Mmh. Voilà, c'est une petite réflexion.
Ouais, c'est intéressant, c'est vrai. Il y a quelque
Merci
chose
beaucoup.
Est-ce qu'une autre personne aurait une question? Soyez pas timide. Hein.
Mais je trouve que c'est aussi une façon, la transmission, c'est une façon active, constructive de demander de l'aide, en fait. Vous voyez, plutôt que de dire « aide-moi », on dit « voilà, moi j'ai ça ». Qu'est-ce que, si je te donne ce que j'ai, qu'est-ce que tu peux en faire?
Donc, c'est comment le recevoir.
Qu'est-ce que tu fais de ce que j'ai? Et on s'aperçoit qu'il y a des fois une part d'incompréhension, mais il y a une fois des parts de comment dire de ça. On dit ah d'accord, toi tu fais ça comme ça, je vais essayer de faire pareil, et du coup ça devient différent. Donc transmettre, c'est une certaine manière de demander positivement de l'aide, en fait.
Ça peut être une question de point de vue aussi par rapport à ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu. On peut transmettre un point de vue. Hein.
Oui, carrément, carrément.
Ouais. Tous les soirs, je voulais pas t'interrompre, mais il y a le chrono qui tourne. Comme tous les soirs, Gwenaël, en fait, on a un jeu qui s'appelle La Bonne Pioche de Tanzila.
La Bonne Pioche.
La Bonne Pioche.
Ah là, je laisse les micros.
Mais bonjour tout le monde. Moi, j'ai un bon pioche. Les règles sont trop faciles. On pioche à moi et vous dites à quoi elle vous fait penser en 45 secondes. On commence.
45 secondes, top chrono.
Oui.
Donc, je regarde. Délicat. La délicatesse. Qu'est-ce que c'est la délicatesse, putain? pardon, je viens de jurer discrètement, excusez-moi. Les actrices avec lesquelles je travaille et les acteurs avec lesquels je travaille font, là dans le spectacle qu'on présente, font preuve d'une grande d'une grande délicatesse. Bon, une fois que j'ai dit ça, ça donne envie d'être effectivement délicat, le fait de prendre soin, le fait de pas troubler, le fait d'y aller avec douceur. Effectivement, il y a certains, il faut rester délicat, quoi, c'est pas nécessairement caressant, c'est pas nécessairement enveloppant, mais c'est le fait de, effectivement, de prendre, d'être d'y aller avec
délicatesse.
Avec délicatesse. comment est-ce qu'on pourrait, quelle forme je pourrais.
Je pense que définir la délicatesse est assez compliqué.
Je veux tellement faire le malin que j'arrive pas à trouver. Vous voyez.
Trouver quelque chose. La première chose
on
qui
peut
vous
vouloir, on peut pas vouloir faire le malin et être délicat en même temps.
C'est parfait comme phrase. Merci beaucoup, monsieur.
Merci.
Merci beaucoup, Tanzila. Merci beaucoup, Gwenaël.
Merci, Tanzila.
Et maintenant, enfin, pas maintenant, pour ceux qui veulent poursuivre l'expérience avec Gwenaël, en fait, il faut savoir que sa pièce joue au théâtre, au jardin de la rue de Mons jusqu'au 24 juillet. Donc, n'hésitez pas.
Vous avez quelque chose à rajouter ?
Merci.
Merci à vous. Merci à vous.
Merci beaucoup. On se retrouve dans quelques minutes avec Caroline Nguyen. Tout de suite, un peu de lecture avec Brandy.
Et les micros, ils sont à qui ? Ils sont à nous.
En direct du Festival d'Avignon.
À la jeunesse, les micros.
Nous sommes à Avignon, toujours. En direct du Cloître Saint-Louis jusqu'à 20h. Prenons une pause. Petite pause théâtre, ça vous dit ? Je vous propose d'écouter un extrait de la pièce Nos corps empoisonnés, une pièce de Marine Bachelot-Nguyen, écrivaine et metteuse en scène. C'est la comédienne Angelica Kiyomi Tisser-Sekine, j'espère que je ne l'ai pas écorchée, qui va nous faire la lecture. Mais avant cela, dites-moi, Marine, pouvez-vous nous résumer en quelques mots votre pièce et nous situer aussi l'extrait ?
Bonjour à toutes et tous. Nos corps empoisonnés, c'est un seul en scène qu'interprète Angelica et qui est sur la vie et les combats de Tran Tonya, une femme vietnamienne qui a 82 ans aujourd'hui et qui est une figure de transmission intergénérationnelle. Et qui a fait la guerre du Vietnam et qui est en procès aujourd'hui contre Monsanto, Dow Chemical et d'autres multinationales américaines par rapport au ravage de l'agent orange, cet herbicide qui a été déversé par l'armée américaine pendant la guerre du Vietnam et qui a aujourd'hui de graves conséquences plusieurs générations après sur la nature, sur la terre, sur les corps, les organismes. Donc la pièce parle de ses années de jeunesse jusqu'au procès qu'elle mène aujourd'hui. Et je peux dire ça sur l'introduction de l'extrait déjà.
Très bien, merci. Peut-être j'ai une petite question.
Oui, bien sûr.
En plus, avant qu'on entame la lecture, est-ce qu'il y a quelque chose que vous essayez de transmettre à travers votre art ? Qu'est-ce que vous essayez de transmettre d'ailleurs ?
Moi, je pense que j'essaie de transmettre des histoires qui me touchent, des histoires qu'on n'entend pas beaucoup. Ces voix d'histoires intimes, Vietnam, France, Occident, elles ne sont pas si présentes. Beaucoup de gens sortent du spectacle en me disant « mais je ne connaissais pas cette page de notre histoire ». Et pourtant, on ne parle pas que de la France, hein, on parle du Vietnam, des États-Unis, du monde. J'essaie de transmettre des voix et des histoires qu'on entend peu, qu'on n'entend pas, parce que je les trouve à la fois absolument singulières, absolument universelles. J'essaie aussi de transmettre, un peu comme ce que nous offre Tran Tonya, des forces de lutte, des forces de transformation politique du monde. Quand bien même le monde va mal, je pense qu'on peut, en se positionnant pour la justice, pour un monde plus équitable et plus égalitaire, transformer les choses. Donc j'essaie aussi de transmettre de l'optimisme à travers, voilà, je transmets aussi l'histoire, parce que je pense que connaître l'histoire permet aussi de mieux appréhender le présent, l'histoire des luttes, l'histoire des résistances. Et puis j'espère de transmettre de la beauté, de l'émotion, de la délicatesse. C'est drôle parce qu'Angelica, dans les articles de presse, beaucoup de journalistes soulignent la délicatesse de son jeu et de son interprétation, donc ça nous a fait rire tout à l'heure.
Merci Marine, on passe à l'écoute maintenant.
J'écris un article au fond de ma tanière à la lueur d'un lampion. Quand un avion nous survole, passe et repasse au-dessus de nous en cercle de plus en plus resserré. Intriguée, je sors. L'avion vole à basse altitude. De ses entrailles s'échappe une sorte de nuage blanc qui fait tache dans le bleu du ciel. Tout à coup, une pluie gluante dégouline sur mes épaules, se plaque sur ma peau. Maman me crie d'aller m'asperger d'eau et de changer de vêtements. C'est du défoliant, Nia, de l'agent orange. Je lui obéis et je vais me laver. Puis j'oublie aussitôt. dans l'apocalypse environnante, que peut représenter l'épandage d'un banal herbicide ? Une fois la guerre terminée, la nature renaîtra, les arbres repousseront, nous en sommes tous persuadés. Le but stratégique de ces épandages massifs pour les Américains ? Détruire la forêt, le couvert végétal où se cachent les maquisards, empoisonner les cultures pour affamer la population, obliger les paysans à fuir leurs terres et à se regrouper dans des hameaux stratégiques sous surveillance américaine, enfin, dégager les abords des bases militaires pour se prémunir des attaques. C'est un traitement de choc. Le premier épandage fait tomber les feuilles, le deuxième détruit les branches et les troncs, le troisième les racines. La jungle, les mangroves, les cultures et rizières se désintègrent. Peu à peu, on se retrouve avec des paysages dévastés, une terre brunâtre où toute trace de vie a disparu, plantée de broussailles et troncs fossilisés. Une terre hostile, infertile et lunaire. Des sols, des eaux, des nappes phréatiques contaminées pour plusieurs dizaines d'années. Pour éradiquer le communisme, leur hantise. Pour anéantir notre lutte de libération, les États-Unis sont prêts à détruire le vivant, à détruire les vivants. Dans ces années de guerre, nous marchons sans le savoir dans des terrains contaminés, buvons de l'eau empoisonnée, absorbons de l'agent orange. Les GI qui pataugent dans la forêt et qui combattent contre nous en absorbent aussi. Les militaires qui manipulent et préparent les produits dans les bases américaines de la côte y sont aussi exposés.
Merci beaucoup, Angelica. Très bel extrait. Très beau moment. Dites-moi, Marine, où est-ce qu'on peut voir du coup votre pièce ?
Alors, c'est à la manufacture Intramuros, rue des Écoles, tous les jours à 16h10, sauf le 19 juillet.
Très bien, merci. Je passe l'antenne à Nesrine.
Et les micros, ils sont à qui ?
Ils sont à nous !
Bonjour ! Alors du coup, nous allons accueillir Luca Bori, si j'ai bien dit, hein, c'est ça ? Ok, super. C'est un chanteur qui est acteur dans l'éducation populaire, enfin un artiste plutôt. Et du coup, vous êtes d'Avignon, c'est ça ?
Alors oui, je suis d'Avignon, je suis né à Avignon.
Vous pouvez nous parler justement de cette musique que vous allez nous chanter à tous.
Oui, alors moi je suis animateur de base et je suis devenu par la suite directeur en centre de loisirs et en colonie de vacances. Et lors de ma première colonie de vacances, j'ai eu un souci, c'est que le premier jour, on a fait une journée au lac, dans un lac, il y avait énormément de soleil, les enfants se sont régalés, super ambiance tout ça, sauf que quand on est rentré le soir, tous les enfants étaient tout rouges. fatigués, insolation, etc. tout ça, donc arrive la réunion du soir. Je parle avec mes animateurs, je leur explique, bon, super la journée, l'ambiance, tout ça, magnifique. Cependant, il va falloir faire attention derrière un petit peu à la sécurité, voilà, des enfants. Et en sortant de la réunion, en étant un grand fan de musique et de rap notamment, je suis parti m'isoler avec une amie, et puis on s'est dit qu'on allait créer cette chanson, tout simplement pour les enfants, pour les sensibiliser comme il faut à mettre les casquettes, à la crème solaire et tout un tas d'autres choses que vous allez pouvoir entendre ensuite par le
super.
Son.
Super, à vous le micro, je vous en prie.
Merci. Je vais me lever, ça.
Non, allez-y.
Pas de problème. Sensibiliser notre public.
Allez-y.
Juste, je vais vous demander, du coup, faites appel à votre âme d'enfant qui est encore en vous. Les paroles vont peut-être pas directement vous toucher, mais essayez de vous mettre dedans. C'est bon. Les enfants, écoutez ce que j'ai à vous dire. Là, je le fais pour le délire, mais la vérité, c'est que c'est sérieux. Et ouais, t'assures, mec, c'est sur toi, t'as ta casquette. Pense à te laver les mains, ta meilleure pote, c'est la savonnette. Attention aux coups de soleil, crème solaire sur le bout de chaque oreille. Non, non, pour vous expliquer, moi j'aime bien rapper. Et venez tous ensemble, on pense à s'hydrater. Okay. On pense à s'hydrater et à dormir la nuit. Petite veillée en famille, et ouais, la colo, c'est la vie. Okay. Ça déboule à la cantine, rien que ça demande des knackis. Et s'il y en a pas, tant pis, vas-y, on se resserre du riz.
crème solaire pour se protéger. Casquette sur la tête bien vissée. Et les insolations, on peut s'en passer. Oublie pas ta gourde, faut s'hydrater. Crème solaire pour se protéger. Casquette sur la tête bien vissée. Et les insolations, on peut s'en passer. Oublie pas ta gourde, faut s'hydrater.
Merci, c'était super. Merci pour cette musique, franchement j'ai kiffé, hein. Je me suis remis dans mon enfance. Et
De vous hydrater.
N'oubliez pas de vous hydrater, n'oubliez pas de mettre la crème solaire et la casquette.
Crème solaire, bien dormir la nuit, on se nourrit et on s'hydrate.
Ben super, merci à toi.
Merci
et
à vous.
Bonne soirée.
Merci, bonne soirée à vous.
Merci les micros.
En direct du Festival d'Avignon.
On est toujours en direct du cloître Saint-Louis. Notre invité nous a rejoint. Alors, vous êtes à la jeunesse, les micros, et aujourd'hui, on parle de transmission. Caroline Guéla Nguyen, je le prononce bien ?
Ouais, super.
Perfect. Alors, bonjour Caroline, qu'est-ce que ça vous évoque, la transmission ?
Bah justement, en fait, comme je suis une invitée surprise, en fait, j'ai regardé sur mon téléphone ce que c'était transmettre définition.
J'avais triché.
Ouais, j'ai triché, bien sûr, toujours. Et en fait, ça veut dire passer d'une personne à une autre, voilà. Et en fait, cette définition me va très bien. C'est-à-dire, en fait, du coup, pour moi, c'est... oui, c'est ça. C'est que finalement, comment est-ce qu'on passe ? Comment est-ce qu'on passe à quelqu'un ? Comment est-ce que moi, je suis metteur en scène ? Je suis autrice. Comment j'ai envie ? J'ai l'impression que le théâtre, c'est ça. En fait, finalement, c'est quasi la base de ça. C'est que j'ai quelque chose que j'ai besoin de passer à quelqu'un d'autre. J'ai besoin, en tout cas, de le faire devant des gens. Donc, c'est que j'ai besoin de transmettre quelque chose. Voilà. Du coup, je dirais que c'est un peu ça.
Alors, vous êtes né d'un père pied noir et d'une mère vietnamienne, deux cultures très éloignées l'une de l'autre. J'aimerais savoir, vous, en tant qu'artiste, quelle influence ces deux cultures ont eu sur vous, peut-être dans la création de vos pièces ou comment vous essayez de transmettre aujourd'hui ?
Bah alors, du coup, mon père, effectivement, il était pied noir d'Alger. Ma mère, donc vietnamienne, en fait, c'est à la fois très éloigné, mais du coup, c'est finalement très logique, puisqu'en fait, c'est les deux retours de colonies françaises. Donc, mes parents se sont rencontrés en France, mais finalement, l'un et l'autre ont pris des bateaux à un moment de leur... Enfin, quasiment au même moment de l'histoire. Voilà. Et en fait, alors, comment ça a influencé bah, déjà, ça a mis du temps. Bah là, c'est marrant qu'en fait on pose la question de la transmission parce que moi je pense que j'ai mis du temps avant de comprendre qu'est-ce que mes parents étaient censés me transmettre. Parce que en fait, juste mes parents ont grandi, mon père a grandi à Alger, il a quitté l'Algérie pas pendant la guerre d'indépendance, mais avant parce qu'en fait il était appelé par les la troupe du général Leclerc qui devait en fait combattre. En fait, mon père est allé libérer Colmar, en gros, voilà. Et avec les troupes du général Leclerc. Et puis après, il est resté en gros en France, enfin en métropole. Et ma mère, elle, donc il a vécu ça, il a vécu la Seconde Guerre mondiale. Et ma mère, elle, a grandi à Saïgon, à l'époque Saïgon. Et elle a vécu la guerre, tout ça, et puis un jour on lui a dit, enfin elle avait 15 ans, on lui a dit bon bah ça y est, fais tes bagages, maintenant on part et on va en France. Et en fait, je suis née dans un petit village du sud de la France, j'avais un accent à couper du sud-est, à couper au couteau, je ne l'ai plus. Quand je suis née, voilà, mes copines, ma seule obsession c'était d'avoir un sac chevignon comme toutes mes copines. Et en fait, j'étais complètement... je voyais quelque part, j'ai senti, je pense assez tôt, que ce qu'avaient à me transmettre mes parents, c'était quelque part trop gros. Il y a quelqu'un qui disait ça dans le public tout à l'heure, on ne peut pas transmettre une expérience. Je sais pas, je me suis posé la question, ça m'a tapé dans l'oreille cette réflexion, mais je me suis dit, bon bah là, c'est énorme ce qu'il y a à me transmettre. Et du coup, j'ai quand même passé finalement beaucoup de temps dans ma vie à penser que c'était non transmettable, fini, l'histoire était ailleurs, voilà. Et jusqu'au moment où, en fait, donc du coup, j'ai complètement coupé. Moi, au début, je voulais absolument être loin de cette histoire-là. Et mes parents faisaient tout pour que je sois loin. Ma mère ne m'a pas appris le vietnamien. Moi, j'ai su très tard que mon père savait parler arabe. Vraiment, les conversations au téléphone avec ma mère, je ne les comprenais pas. Donc, quand elle pleurait, je ne comprenais pas. Enfin...
Mais vous savez le pourquoi de vos parents ? Pourquoi vos parents n'ont pas voulu vous transmettre cette culture qui, quelque part, pourrait être enrichissante?
Mais est-ce que, justement, les traumas ne sont pas aussi une bonne transmission pour ne pas répéter une histoire qui peut être dure?
Ben, en fait, je pense que très clairement, mes parents, ils avaient envie, je pense, je n'ai jamais vraiment posé la question, mais en fait, ils avaient envie que j'aie une autre vie. Ça, c'était leur plan. Il fallait que j'aie une autre vie qu'eux. Voilà. Et d'ailleurs, ma mère, en fait, quand elle est arrivée en France, par exemple sur la question de la transmission de la langue, ma mère, on lui a interdit de parler vietnamien. Et donc, quand je suis née, ma mère, la première chose qu'elle a fait, c'est qu'elle ne m'a pas transmis le vietnamien. Parce que pour elle, son souhait, vu qu'elle voulait que j'aie une autre vie, c'était en fait que je ne parle pas sa langue qui a été interdite. Donc en fait, moi, c'est ça qui a intégré ma mère. Et donc moi, j'ai intégré le fait que je ne parlais pas vietnamien. Et du coup, ça a rompu la transmission, quelque part. Enfin là, on parle de transmission, c'est là très clairement. Mais elle ne l'a pas sorti de nulle part. C'est ce qu'on a dit à ma mère. On lui a dit, en fait, là, pour t'intégrer, il faut que tu arrêtes de parler vietnamien. Donc, quand je nais, ben, je n'ai pas la langue maternelle de ma mère. Je n'ai pas ça en bouche. Et la culture, en fait, ben, mais c'est qu'après, en fait, finalement, c'est assez beau parce que je pense que ça, j'ai fait mon deuil de ne pas savoir parler vietnamien. J'ai essayé, j'ai eu des soubresauts à des moments, mais c'est hyper compliqué. Même très concrètement, dans la bouche, il y a quelque chose physiologiquement qui est vraiment compliqué. Marine, d'ailleurs, pour en parler, tout ça, je sais pas, elle est partie, elle est là, voilà, elle confirme, elle confirme. Mais du coup, ben, j'ai essayé de trouver mon chemin.
Est-ce que je peux rebondir sur ce que vous êtes en train de dire?
Ben, bien sûr, ouais.
Parce que dans ce témoignage, je me reconnais un peu. C'est-à-dire que, en vérité, je pense qu'on peut pas transmettre de force. Parce que moi, mes parents non plus, ils sont venus en France, mais ils m'ont pas appris à parler la langue parce que. Pour eux, c'était pas un handicap, mais c'était pas forcément quelque chose qu'on avait le droit forcément de parler pour bien s'intégrer. Et je dirais que bah, finalement, cet héritage, bah, il n'est pas partagé par tout le monde.
Oui, oui, mais la question de la langue, en fait, moi, je sais que quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai toujours une anecdote qui est assez rigolote. Elle n'est pas rigolote du tout, mais elle est très claire. C'est que du coup, je fais donner des cours donc avec des jeunes dans un lycée. Et puis, je parlais avec une maman à la fin de l'atelier. Donc, il y avait son garçon qui aimait beaucoup le théâtre et tout. Et à un moment, on parle, et elle me dit mais j'aimerais vraiment, je ne sais plus, on arrive à parler de l'anglais. Et elle me dit, mais j'aimerais tellement que mon fils soit bilingue. Et je parle avec elle, je dis, ah bah oui, c'est vrai, ça serait bien que tu sois bilingue, tatati, tatata. Et en fait, à un moment, je parle avec elle, je dis, mais votre fils, en fait, il parle arabe et français. Il est bilingue. Mais pour elle, en fait, elle n'avait pas considéré
ça
n'était pas... En fait, ce n'était pas être bilingue, parler arabe.
C'était quelque chose de peut-être naturel.
C'est ça.
C'était quelque chose de déjà intégré, donc il ne se rendait pas en compte.
Ou c'était quelque chose qui n'était pas reconnu en face, comme étant la deuxième langue, une deuxième langue, une langue qui a de la place, une langue qui prend place à l'intérieur d'un autre espace, scolaire, dehors, enfin... Et que ça, en fait, ça n'était pas une langue. En fait, ce qu'il y a, c'est que je pense qu'il y a eu, enfin, moi, je le vois du côté du vietnamien, il y a eu un moment où ça n'était pas une langue. Ça n'était pas une langue quand ma mère est arrivée. Et quelque part, elle m'a transmis dans mon foyer le fait que ça ne devait pas être une langue. Ça n'est plus devenu ma langue.
Et elle vous a plus transmis le fait d'enlever une partie de votre identité, de vous intégrer à tout prix, que vous transmettre son identité à elle.
Comme un déni, en fait.
Cette énergie-là. Mais c'est une énergie positive. Je l'ai transformé. Ah, je l'ai transformé. Il y a quelque chose qui, en tout cas, c'est. Et juste sur la question de la langue, parce que c'est intéressant sur ça. En fait, quand j'ai commencé, parce que donc ta question au début, c'était comment j'ai transformé maintenant pour faire du théâtre. Mm-hmm. Et donc là, enfin, qu'est-ce que j'en ai fait de ça dans le théâtre? Et ben, j'en ai fait finalement. J'ai une obsession sur les plateaux de théâtre. Moi, je voulais entendre parler vietnamien. Voilà. Okay. Du coup, la première chose que j'ai faite, c'est enfin l'une des premières choses. Enfin, non, d'ailleurs. Justement, c'est intéressant, c'est pas du tout la première chose que j'ai faite. La première chose que j'ai faite, c'est que j'ai monté Macbeth, Andromaque, je suis partie vraiment dans les tubes comme ça, et j'ai mis du temps. Et un jour, en 2017, fin 2016, je suis dans un restaurant vietnamien et je me dis, mais en fait, je veux entendre parler le vietnamien sur le plateau. Donc là, en fait, je mets en scène un spectacle qui s'appelle Saigon, qui se passe dans un restaurant vietnamien. Là, je caste des comédiens français, des comédiens vietnamiens. Et pour moi, en fait, tout d'un coup, c'est comme si le monde se divisait en deux. Il y avait ceux qui parlaient vietnamien et ceux qui ne le parlaient pas. Bon, bah, moi, je faisais partie de ceux qui ne parlaient pas. Et puis voilà. Et en fait, j'ai découvert une troisième voie, qui est celle, du coup, des Viet Kieu, en fait, de ma mère. C'est qu'en fait, ma mère, elle parlait un vietnamien qui n'existait plus. Okay. En fait, finalement, ma mère, quand elle est retournée au Vietnam...
Ils ne se comprenaient plus.
Bah, ils ne se comprenaient plus.
Elle était plus à jour. Quoi.
Mais elle n'était plus à jour, ouais. Elle n'était plus à jour.
Okay. Et Caroline, en fait, je vous interromps rapidement. Ouais. Comme tous les soirs, on a l'habitude de passer un appel téléphonique avec une ONG. On va revenir vers vous.
Ah, bien sûr.
C'est pas fini. Hein.
C'est pas fini, ouais. Gardez bien l'idée que vous avez en tête. Hein.
L'appel met du temps, mais ça arrive.
Allô ?
Bonjour, Augustin.
Bonjour.
En fait, là, je suis au téléphone avec Augustin Strapnard. qui est producteur d'émissions, animateur d'émissions, télévision, et engagé dans l'association de la Bibliothèque Sans Frontières.
Exactement.
Et je me demandais peut-être de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette phrase qui est « il y a plus à donner qu'à recevoir ».
Il y a plus à donner qu'à recevoir, c'est une très belle phrase, je ne saurais pas vous dire qui l'a écrite, qui l'a dite. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça vaut pour moi de plus en plus dans ma vie, dans mon métier et dans mes engagements. C'est-à-dire que plus je vieillis et plus je me rends compte que ça devient une forme d'éthique de vie, quelque chose que j'essaye de faire, une sorte de devoir.
Comme une forme de paix peut-être.
Comment ?
Comme une forme de paix peut-être.
Oui, peut-être. Peut-être une forme d'apaisement, en tout cas de réconfort aussi. Je crois qu'on m'a beaucoup donné, moi, dans ma vie. Je viens d'un milieu assez privilégié. J'ai fait des études de haute tenue et j'ai toujours eu beaucoup de chance dans mon métier. Et je crois qu'il est temps aussi, à un moment donné, de rendre, de donner. Et depuis maintenant 6 ans, je suis le parrain de cette association, de cette ONG Bibliothèque Sans Frontières, justement pour rendre également, pour donner et pour rendre.
Ok. Et vous pouvez nous dire en deux mots ce que vous faites, du coup, comme action à la Bibliothèque Sans Frontières ?
Oui, bien sûr. Bibliothèque Sans Frontières, en fait, c'est une ONG, c'est-à-dire une association à but humanitaire, notamment, qui favorise l'éducation, l'information et la culture auprès des plus démunis en France et dans le monde entier. C'est-à-dire qu'on agit dans une vingtaine de pays et surtout dans une vingtaine de langues. Et aux côtés de Bibliothèque Sans Frontières, je me suis rendu comme ça dans des camps de réfugiés au Burundi, au Bangladesh ou en Jordanie, mais également en Colombie dans le cadre de la réconciliation entre les anciens FARC et les populations locales, aux États-Unis dans les zones précaires, mais également en France où on a un tiers de nos programmes. Et depuis 6 ans, je voyage à leur côté pour médiatiser en fait cette magnifique association, mais également pour les aider, pour opérer une sorte de médiation avec les jeunes avec qui on travaille.
Franchement, je trouve que c'est très beau ce que vous faites. Et moi aussi, j'ai participé plusieurs fois à des œuvres de charité. J'aimerais savoir aussi, du coup, je pense que vous êtes la bonne personne pour vous poser aussi cette question sur la transmission. Peut-être, je ne sais pas ce que vous pensez, mais y aurait-il pas une évolution dans la transmission ? Ou peut-être que c'est toujours des manières très traditionnelles, très répétitives, en fait, toujours les mêmes ?
En fait, si vous voulez, moi je me méfie toujours de ces mots un peu valises, ces mots qu'on utilise partout, on appelle ça des marronniers en journalisme, comme le mot transmission, vous voyez, j'ai l'impression que tout le monde le sert tout le temps, alors il faut savoir effectivement comment on l'utilise et ce qu'on en fait. Moi ce que j'aime avec Bibliothèque Sans Frontières, si vous voulez, c'est que c'est pas l'idée de transmettre mon savoir ou notre savoir occidental dans le monde entier. En fait, on va toujours travailler avec des associations locales, avec des gens locaux. En fait, une bibliothèque pour nous, ça va de pair avec des gens, toujours, des gens qui habitent sur le terrain et qui sont souvent des anciens bénéficiaires de nos programmes. Ce qui fait qu'on travaille, si vous voulez, avec eux et non pas pour eux ou simplement par nous-mêmes. Vous voyez ce que je veux dire ? On essaie toujours de travailler en dialogue. Pour moi, la transmission, il ne faut jamais oublier qu'il y a quelqu'un qui transmet et quelqu'un qui reçoit. Et les deux doivent être en réalité équivalents. Moi, j'ai à apprendre de tout le monde. Vous voyez, c'est pas moi qui vais apprendre aux gens, je peux apprendre de tous et de toutes. Et c'est la plus belle leçon que ma grand-mère m'ait donnée quand j'étais petit. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait de moi un intervieweur toute ma vie. Hein. Elle m'a bien expliqué que tout le monde avait quelque chose à dire. Et si j'étais pas capable de le recevoir, c'était de ma faute. Il s'agissait pour moi d'apprendre à déployer la parole des autres.
Bah, merci beaucoup. On est toujours en direct au Cloître Saint-Louis. Pour l'émission de la radio Le Micro à la Jeunesse et on vous remercie beaucoup.
Merci.
Ben c'est moi qui vous remercie et continuez votre radio parce que vous êtes très à l'aise. Et ça c'est la
Vous trouvez ? J'étais un petit peu stressé quand même. Hein. OK. Bah merci beaucoup Augustin Trapenard.
Salut, au revoir.
Merci. Au revoir.
Alors, merci à tous d'être...
On est toujours avec Caroline. Avec Caroline, oui.
On reprend là où on s'est arrêté.
Dans À la jeunesse, les micros. On peut reprendre là où on s'est arrêté, du coup.
On s'était arrêté... Non, bon... je sais plus où on s'est arrêté.
La langue.
Ouais, bien sûr. Oui.
Alors, je pense que... On va vous poser une question qui va un peu vous bousculer, mais rien de très grave. Alors, nous sommes tous humains, nous avons nos qualités comme nos défauts. Et j'aimerais savoir, Caroline, quelle est la chose, quel est l'aspect de vous que vous ne transmettriez pour rien au monde ?
Waouh !
On vous bouscule, mais pas trop. Hein.
Moi, je peux répondre à la question, comme ça vous laisse réfléchir.
Ah ouais, super, ouais.
Moi, je pense que ce que je ne voudrais pas transmettre, surtout à mes enfants, ce serait mon caractère. Et je pense que tout le monde, tous ceux qui me connaissent ici peuvent être d'accord. Je suis...
Ouais, tu peux le garder.
Je râle énormément sur toutes les photos qu'ils
tout
ont
le temps grognonne.
Je suis toujours renfermée sur moi-même et ce n'est vraiment pas quelque chose que je vais transmettre, surtout que je ne suis pas comme ça, en fait. Je sais pas si ça vous...
Bah si, si, du coup, je suis partie sur ma fille, évidemment. Je suis partie carrément sur ma fille. Je crois que j'aimerais pas lui transmettre des... Mais c'est con parce que je pense que c'est bête de penser comme ça, mais je vais le dire là. C'est que je crois que j'aimerais pas lui transmettre des choses que je ne sais pas que je suis en train de lui transmettre, en gros. C'est-à-dire, en fait, je crois que j'ai envie de... Enfin, là, bah, parce que du coup, enfin, là, du coup, tu m'as fait penser, enfin, comme tu parlais de tes enfants, moi, du coup, je pense concrètement à ma fille, Liv, qui est là, pas loin. Et je me dis, je crois que j'aimerais pouvoir, enfin, en tout cas, je suis enfin, inconsciemment, je me rends compte, hein, mais c'est qu'en fait, j'essaie quand même de contrôler finalement ce que je transmets. Et finalement, tu vois, pour revenir à la question qu'on avait avant, même par rapport à ce que mes parents m'ont transmis et tout, finalement, je crois que ce qui m'a le plus fondé, c'est ce qui ne se rendait pas compte qu'ils me transmettaient. C'est les choses qui étaient... pour revenir donc justement sur la question de la langue qui permet de revenir sur ce qu'il y a avant, c'est que, par exemple, m'a pas appris le vietnamien à ma mère, mais en fait, il y avait un traducteur donc, tout le temps qui était avec moi pour traduire du français au vietnamien. Et du vietnamien au français pour que je comprenne. Et j'adorais la façon dont le traducteur parlait. Parce qu'en fait, il avait encore un cerveau de vietnamien, mais qui traduisait le français. Et du coup, il disait des choses comme « Elle n'en a pas fini de sa douleur ». On parlerait jamais comme ça, à part si on est Marguerite Duras dans un livre. Mais
c'est très littéraire.
C'est très, oui, c'est très Duras, en vérité. C'est pas, mais il parlait comme ça. Et en fait, un jour, j'ai demandé à la personne qui collabore avec moi d'écrire toutes les phrases qui sonnaient comme ça pour écrire la voix off. Je voulais écrire la voix off du spectacle. Et en fait, un jour, je me dis « Bon, génial, j'avais l'impression d'avoir vraiment compris comment est-ce que ce cerveau vietnamien parlait. » Je trouvais ça hyper beau. Et je me suis mis à écrire la voix off. Et en fait, ce qui était assez fou, c'est que je l'ai fait lire à un ami à moi. Et je lui ai dit, t'en penses quoi et tout. Et en fait, il m'a dit, mais c'est drôle parce que c'est pas si loin de la façon dont tu parles.
Ah, vous aussi, donc, vous parlez comme votre mère, mais
sans la langue.
Sans vous en rendre
exactement.
Compte.
Exactement. Elle m'avait transmis. Elle me l'avait finalement, quelque part, me l'a transmis.
En fait, c'est plus la transmission de vous à vos parents, c'est plus quelque chose dans le non-dit, peut-être des limitations, dans un peu du mimétisme, on va dire.
Oui, je sais pas si c'est du mimétisme, du non-dit, en tout cas, oui, c'est en tout cas des choses pas formulables, pas formulées, ouais.
Ok, nous allons passer la parole dans le public. On va vous bousculer, vous aussi, un peu. Donc, au public, oui. Juste là, avec...
Ici, oui, on est dans le public. Du coup, je suis Brandy, je suis avec Nesrine. Et peut-être que vous avez un avis sur cette question de... J'aimais bien ce que vous étiez en train de dire, c'est-à-dire qu'on transmet des choses qu'on ne veut pas forcément transmettre. Et ce matin, quand on a eu la réunion, il y a quelqu'un qui a dit que nos parents nous ont forcément transmis des choses qu'on ne veut pas du tout. Et du coup, je me suis dit peut-être que vous avez un avis là-dessus. Que...
Alors moi, j'ai un avis. Hein, non, mais après, je donne. Mais j'ai un avis. Par exemple, je ne veux pas ressembler à mon père. Et je ressemble totalement à mon père, mais vraiment le caractère, tout. Et c'est absolument ma phobie. Je ne veux pas. Et voilà.
Je pense qu'on a toute cette phobie-là de ressembler à notre père un jour.
J'aime beaucoup votre question et la façon dont vous la traitez. Moi, je me demande si, quand on parle de transmission, il ne faut pas qu'il y ait un peu une intention, quand même. C'est-à-dire que, est-ce qu'on transmet... alors, il y a des choses dont on hérite, il y a des choses qu'on, voilà, qu'on, qui, se, qui nous collent, qui deviennent nôtres, qui ne sont pas forcément pensés, voulus, tout ça. Mais est-ce que c'est de la transmission ? Je ne sais pas. Moi, je me demande. Je me dis que pour transmettre... Moi, pour moi, la transmission, c'est quelque chose d'assez généreux. C'est un geste d'une personne à une autre qui se donne aussi dans un échange. Parce qu'on, comme disait tout à l'heure Monsieur Morin, qu'on attend aussi peut-être quelque chose qui revienne dans l'échange de ce qu'on a donné. Mais moi, je me dis, ce qui est beau dans la transmission, c'est qu'on a envie de donner. Et que donc, du coup, les choses qui ne sont pas volontaires, ou ce que tu dis, ton père qui t'a transmis, moi, mon père, il m'a transmis, ma mère, elle m'a transmis sans vouloir, tout ça. Est-ce que c'est de la transmission ? Je ne sais pas. Moi, la transmission, je préfère penser que c'est quelque chose de très positif qu'on m'a donné, que j'ai reçu, en sachant que je le recevais et qu'on me le donnait. Parce que, voilà, comme ce que vous faites avec nous, là, tous les soirs, vous nous transmettez plein de trucs, parce que vous avez envie de nous les donner.
Il est presque l'heure de se quitter, Caroline. Pardon,
merci beaucoup.
Mais avant tout...
Mais c'était très beau ce que vous venez de dire, franchement, magnifique.
J'ai même rougi.
Elle est un peu rude, mais...
On aime bien.
Mais avant, son caractère, mais avant tout, la bonne pioche.
La bonne pioche.
La bonne pioche.
Voilà, je laisse les micros.
Et mon rôle là. Hein.
Et alors, attends, c'est quoi du coup ? Faut que je prenne...
Bon, mais on prend pioche à moi et on dit ce que tu penses en 45 secondes.
Vivre. Putain, c'est dur. Pas de vivre, mais de trouver le... Vivre. Ah bah si, mais en fait, c'est assez beau. Bah, on parle transmission. Ma fille, elle s'appelle Liv. Ça veut dire vivre. Ça veut dire vie. Et... Pardon ?
En anglais.
En suédois. En suédois, ça veut dire... Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi ma fille a un nom suédois. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui m'a un peu échappé. J'ai du mal à l'expliquer. Et par exemple, peut-être que là, il y a quelque chose que je ne voulais pas transmettre. Enfin, ou en tout cas, quelque chose que je voulais dévier, tromper à l'ailleurs. Mais du coup, ben, c'est ça. Vivre, ça me fait penser évidemment à ma fille, à Liv. Je ne sais pas. Effectivement, j'ai des mots valises, comme disait Augustin Trappenard, que j'ai pas envie de dire, mais vivre ensemble, des choses comme ça. Mais en même temps, là, du coup, je sais pas, il y a quand même quelque chose de ça que je trouve assez beau, là, de se dire, les 45 secondes sont toujours pas passées. Parce que là, je triche aussi. Hein. J'ai commencé en trichant, je finirai en trichant. Voilà.
On va fermer les yeux, ça a fait 45 secondes. Merci beaucoup, Tanzila.
Merci, Tanzila. Et je passe la parole à Noah et Mariama pour le mot de la fin.
À la jeunesse, c'est les micros.
On va bientôt devoir se quitter. Soyez pas tristes, demain, on est encore là. On a pu entendre des mots comme énergie, partage, donner, recevoir, marronnier, délicat, geste. Ces mots, vous pouvez les laisser flotter autour de vous, vivre un moment avec vous. Prenez le temps de leur donner l'espace qu'il faut ou chassez-les comme vous voulez. Mais vous en faites ce que vous voulez. On se retrouve demain pour la 5e émission de À la jeunesse, les micros, qui sera sur le thème « Le collectif ».
C'était Miss.
Ce n'est pas fini.
C'est pas grave.
Ils sont à qui ?
Ils sont à nous.
Merci à toutes et à tous, on vous informe que cette émission peut être écoutée sur les ondes Radio Campus et de EU Radio, ainsi que sur des radios associatives partout en France.
Merci, au revoir, passez une bonne soirée.
À la jeunesse, c'est les micros.
Ah, on n'a pas fini, parce qu'aujourd'hui c'est un événement un peu spécial pour une personne spéciale. Et c'est Hélène, et c'est son anniversaire, donc je vais vous demander de lui chanter. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire.